Bonsoir, l'actualité des Alpes du Sud de ce lundi 14 juin. Une femme de 70 ans est décédée après avoir été percutée par un train hier à La Rochette. Une enquête est ouverte. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un suicide. Assassinat à Quinçon en décembre dernier, le beau-fils a été incarcéré. Le corps de Fabrice Pezzana avait été découvert criblé de 4 balles au thorax. L'immobilier reste une valeur refuge suite à la crise sanitaire sur le territoire des Hautes-Alpes. Les volumes de vente du bâti ancien atteignent un record sur la décennie. Près de 700 dossiers instruits dans les Alpes de Haute-Provence dans le cadre de MaPrimeRénov'. 383 dossiers avaient été instruits en 2020. Au total, plus de 2 millions d'euros d'aides ont été engagés par l'État. Une femme de 70 ans a perdu la vie hier après avoir été percutée par un train. Les faits ont eu lieu à 10h45 au passage à niveau du Petit Lara à La Rochette. Selon les premiers éléments, il pourrait s'agir d'un suicide. 18 pompiers ont été mobilisés. La circulation ferroviaire a été interrompue pendant plusieurs heures. Les passagers ont été acheminés vers leur destination par un autre TER. Un homme a été grièvement blessé après un accident de parapente. L'alerte a été donnée vers midi ce lundi, commune de la Motte en Champsaur. Cet homme de 27 ans a été polytraumatisé. Il a été héliporté par le PGHM de Briançon sur l'hôpital de Grenoble. Après l'assassinat d'un chef d'entreprise à Quinçon en décembre dernier, son beau-fils a été placé sous mandat de dépôt puis incarcéré pour assassinat. Cet homme de 25 ans était le principal témoin du crime. Il disait avoir découvert le corps de Fabrice Pezzana, 54 ans, sur un chemin criblé de balles. Selon nos confrères de la Provence, cet homme encourt une peine d'une dizaine d'années de réclusion criminelle. Comment se porte l'immobilier dans les Hautes-Alpes ? À cette question, l'Observatoire souligne que la pierre reste toujours une valeur refuge. Dans le département, 45% des acquéreurs en sont originaires, 28% viennent de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 19% du reste de la France, 5% sont franciliens et 3% étrangers. Les plus de 60 ans sont ceux qui investissent le plus. Ils représentent 25% des acquéreurs, alors que seulement 9% des acheteurs ont moins de 30 ans. Après une année 2020 particulière, le nombre de transactions progresse sur un an dans les Hautes-Alpes. Les volumes de vente du bâti ancien atteignent un record sur la décennie, précise François Jancard, le président de la Chambre des notaires des Hautes-Alpes.
Concernant la conjoncture immobilière au niveau des volumes sur le département, on s'aperçoit que pour les maisons anciennes, on a une augmentation du volume entre 2020 et 2021, donc ce sont les chiffres jusqu'à fin mars 2021. Donc cette augmentation pour les maisons est de 10%. On a une augmentation pour les terrains d'environ 15% et pour les appartements anciens de 20%. Pour le neuf, on est plutôt malheureusement sur une baisse qui s'explique notamment par le gel des instructions des permis de construire pendant la période sanitaire. On s'aperçoit au niveau des appartements anciens que 34% s'effectuent dans le Briançonnais, 33% dans le Gapençais-Champsaur. On a dans l'Embrunet Guillestrois-Queyras, 23% des transactions. Et le Grand Buèche, lui, représente environ 10% des transactions.
Les prix au mètre carré pour le marché des appartements anciens restent stables sur un an, selon l'Observatoire. C'est plus 0,2% dans le Briançonnais et moins 0,2% dans le Gapençais-Champsaur. Toutefois, les disparités sont plus importantes selon les communes. C'est par exemple moins 8% à Valouise-Pelvoux, alors qu'il y a une progression de 19,4% au Montier-les-Bains. Le prix de vente des maisons anciennes est de 231 100 euros dans les Hautes-Alpes à la fin du mois de mars 2021. C'est une hausse de 5% sur un an. Il s'agit là aussi du record de prix de la décennie. 47% des ventes se font dans le Gapençais et Champsaur. Une hausse respective de 8,2% et de 11,8% des prix est observée sur le Grand Buèche et le Briançonnais. Et alors que le marché se caractérise désormais par une offre qui se raréfie et une demande croissante, les prises de décision des acquéreurs sont donc souvent rapides, souligne François Jancard.
Il n'est pas rare donc de voir aujourd'hui des biens qui soient vendus en quelques jours après leur mise à disposition sur le marché. Alors la marche à suivre, c'est d'abord de bien connaître le secteur dans lequel on veut acheter, donc bien faire attention à l'emplacement géographique, notamment par rapport à la présence d'école, le temps de trajet par rapport au travail, etc. Et aller visiter différents biens pour vraiment connaître la tendance des prix dans le secteur dans lequel vous souhaitez acquérir. Lorsque vous avez trouvé le bien de vos rêves, vous allez émettre une offre à votre vendeur qui va l'accepter. Donc c'est la négociation du prix qui se fait entre les parties. Une fois que vendeur et acquéreur se sont entendus sur le bien et sur le prix, le notaire va intervenir pour mettre en place un avant-contrat qui va lier les parties. Il faut bien avoir en tête que l'acquéreur, une fois qu'il a régularisé l'avant-contrat, il a un délai de réflexion de 10 jours suite au recommandé que va lui envoyer le notaire. S'il souhaite se désengager, et à ce moment-là, il ne perd rien.
Dossier à retrouver sur alpe1.com. Je vous en parlais dans les titres déjà, près de 700 dossiers instruits dans les Alpes de Haute-Provence dans le cadre de ma prime Rénov. Ce dispositif lancé par l'État en janvier 2020 pour aider à la rénovation et rencontre donc un véritable succès sur le territoire. 383 dossiers avaient été instruits en 2020. Au total, plus de 2 millions d'euros d'aides ont été engagés par l'État. À l'échelle de la région, les subventions allouées dans les Alpes de Haute-Provence constituent environ 9,7% des aides, alors que le département représente 3% de la population. Dans l'actualité, également, la cinquième antenne du centre social de Manosque a été inaugurée vendredi. Un lieu au cœur du centre-ville qui aura pour vocation d'accompagner, de proposer des services multiples et des animations, souligne Mélissa Ménard, sa directrice.
Ce lieu participe à l'ensemble du projet porté par les élus, comme l'a rappelé à l'instant Monsieur le maire, qui a une vocation d'appui et d'accompagnement des habitants, notamment dans les quartiers prioritaires, mais pas que, puisque Manosque est une grande ville. Donc on a vocation à proposer à la fois aux familles, aux jeunes, mais aussi aux personnes isolées, un ensemble de propositions qui sont des services du quotidien à travers un appui autour de l'accès aux droits, soutien administratif, juridique, etc. Mais également un ensemble d'animations qui ont vocation à soutenir le vivre ensemble et le lien social.
De nouvelles maisons d'animation et de proximité pourraient voir le jour d'ici la fin du mandat, indique Camille Galtier, le maire. L'une dans le secteur du Mont-d'Or colombier, la seconde vers Manosque Village. Pour l'heure, la directrice et son équipe nouvellement recrutée se concentrent sur les animations estivales. Écoutez-la.
On est focus sur l'été, puisque chaque été, on a le souhait de pouvoir proposer vraiment des sorties, des activités qui nous permettent en fait d'accompagner les habitants à la découverte des équipements publics comme par exemple les vanades qui sont pour Manosque un espace vraiment frais, ludique et convivial pour la période des beaux jours, et beaucoup de personnes ne font pas encore le pas de s'y rendre et ne savent pas forcément l'ensemble des propositions qui sont faites autour de la base nautique notamment. Donc on y sera tous les lundis. Tous les mardis, on fait des sorties famille et tout public. Et tous les jeudis, on fera des sorties jeunes. On a pour objectif de permettre à environ 250 personnes cet été de bénéficier de nos propositions.
Dossier réalisé par Manon Mathieu. Pour favoriser le retour à l'emploi, la CCBD propose 4 ateliers. Gratuits, il suffit simplement de s'inscrire pour y participer. Du 21 au 24 juin, les 4 espaces France Service de Vennes, du Dévoluy, de Serres et de la Ragne vont donc proposer différents ateliers au programme Colore ta vie, Trouve ton job, Le retour à l'emploi ou encore Andy Poursuite. Plus d'informations sur alpe1.com. 2 lauréats, 1 italien et 1 français, seront récompensés dans le cadre du concours transfrontalier pour la biodiversité du Mont Viseau. Ils recevront chacun un chèque de 1000 euros pour soutenir leur projet. Il doit s'intégrer dans la démarche du programme L'Homme et la Biosphère de l'UNESCO. Hélène Berthier, coordinatrice de la réserve de biosphère transfrontière du Mont Viseau.
L'idée, c'est vraiment de récompenser des initiatives locales éco-citoyennes qui correspondent aux valeurs qu'on veut partager sur notre territoire. Les candidatures peuvent répondre à un thème ou à plusieurs thèmes. Il y en a 6. On n'est pas obligé que les 6 soient réunis au sein d'une candidature. Donc, bah, ça peut être le maintien de la biodiversité ou des choses autour de l'agriculture locale et responsable, le maintien de l'emploi et une qualité de vie respectable sur notre territoire, le lien social intergénérationnel et transfrontalier, tout ce qui va tourner autour des énergies propres ou voilà, conservation du patrimoine culturel, naturel et des savoir-faire locaux.
Et vous avez jusqu'au 30 juin pour candidater. En bref, les escapades seront reportées au mois de septembre. Ce festival organisé par le Théâtre du Rance de Château-Arnoux-Saint-Auban devait initialement se dérouler au mois de juin. Il aura finalement lieu du 16 au 18 septembre. La programmation devrait être dévoilée très prochainement.
Alpes 1 Sport. Alpes 1 Sport.
La briançonnaise Léna Géraud a retrouvé ce week-end l'élite mondiale de la discipline en Autriche. La haut alpine a décroché la 16e place vendredi. La championne de France a réussi à gagner 3 positions hier à l'occasion de l'épreuve olympique. Chez les hommes, Stéphane Tampier a préféré ne pas se rendre en Autriche pour récupérer du virus Epstein-Barr qui l'handicapait depuis plusieurs mois. Il souhaite être fin prêt pour les championnats du monde le 4 juillet prochain au G. Et puis, lui, il veut devenir le premier Français atteint de diabète de type 1 à gravir la deuxième plus haute montagne du monde. Jerry Gore part à l'assaut du K2, une expédition de 7 semaines pour cet alpiniste professionnel depuis plus de 35 ans qui est contraint de s'injecter de l'insuline jusqu'à 8 fois par jour. Après plusieurs mois d'entraînement, ce sportif de 60 ans qui vit sur les Hautes-Alpes souhaite ainsi atteindre un rêve d'alpinisme.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.